Bonsoir, merci à tous d'être présents. Alors, c'est une conférence un peu surprise pour les Utopiales, puisque dans le programme, il y avait une autre conférence, mais qui n'a pas pu se faire. Et du coup, on a décidé de faire une conférence sur la littérature jeunesse. Et on va parler notamment des enjeux donc de la littérature jeunesse dystopique, mais on va aussi parler des relations entre les personnages dans les romans pour ados, pré-ados et young adultes, pour se demander en fait comment est-ce que, lorsqu'on est adulte, on met en scène toutes ces relations. Comment on se pose ou non des limites, dans quel cadre et qu'est-ce qu'on en fait, avec quelles intentions. On a un joli plateau qui a été réuni tout autour de nous, avec notamment à mes côtés Daniel Martin-Eagle. Daniel Martin-Eagle, vous avez forcément lu ou fait lire Les Oubliés de Vulcain, vous avez forcément lu ou fait lire Les Abîmes d'Outre-mer, et puis elle vient de signer un roman jeunesse. Alors c'est plus pour les 8-12 ans, c'est une série qui s'appelle Aventure à Guédelon et qui se passe sur le château de Guédelon qui se construit comme au temps du Moyen-Âge dans Lyon. À ses côtés, Paolo Bachegaloupi. Alors Paolo Bachegaloupi, vous connaissez sans doute La Fille Automate. Il vient de sortir Water Knife, désolé pour l'accent, en France. Et puis en jeunesse, il y a notamment Ferrailleurs des mers, où on va avoir des héros qui vont se glisser dans la peau de bateaux pour désosser les bateaux à l'abandon. Il va nous en parler et on verra comment ces relations, dans un cadre très compliqué pour les enfants, comment ces relations s'installent. À ses côtés, Eric Lhom. Eric, vous le connaissez sans doute, avec notamment Le Livre des Étoiles, ou bien encore Time Dragon, et puis A comme association avec Pierre Bottero, avec justement une relation un peu particulière dans les personnages. Estelle Faye, avec notamment La Voix des Oracles, dont le troisième tome est paru il y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, en mai dernier, donc entre autres, on pourra aussi parler de Porcelaine ou bien encore de La Dernière Lame. Et puis Hervé Jubert, Hervé qui a notamment signé Monstre ou bien encore Blanche ou bien encore Vagabonde et tout un tas de romans. Une petite précision, on a Paolo Bachegaloupi, on a la chance de l'avoir sur scène. Si vous voulez comprendre tout ce qu'il dit, si vous ne parlez pas anglais, il y a des casques juste derrière, ou sur la position 1, vous aurez la traduction en anglais. On va d'abord faire un petit tour de table pour savoir un petit peu dans chaque univers et dans chaque roman comment ça se passe. Daniel, dans ton roman par exemple Aventure à Guédelon, comment tu as mis en scène les relations entre les personnages? Ils ont environ 10-11 ans à partir de ce moment-là.
Oui, c'est ça. Ils sont des tout jeunes ados. Le problème principal que j'ai eu, c'est que mes petits héros du 21e siècle ont des contacts avec des enfants de leur âge du 13e siècle, en plein cœur du Moyen-Âge. Et là, je ne voulais absolument pas, en tant que professeur de lettres pendant de nombreuses années, que les enfants du passé s'expriment exactement comme ceux de notre époque. Donc le premier grand problème relationnel que j'ai eu entre mes héros dans les deux premiers tomes des Aventures à Guédelon, c'est la langue, tout simplement. C'est-à-dire essayer que ces petits enfants de nos jours n'arrivent pas en disant « ouais, j'y vais », etc., en plein milieu du Moyen-Âge, et se rendent compte que l'accent, le vocabulaire, la façon de s'exprimer était extrêmement différent au Moyen-Âge. Mais d'un autre côté, je ne pouvais absolument pas lasser mes jeunes lecteurs en utilisant sans arrêt dans chaque réplique de l'ancien français. Donc je suis allée progressivement vers simplement quelques tournures, une façon de parler, des inversions de mots, etc., qui font que le lecteur peut continuer à lire quand même le roman en comprenant absolument tout ce qui s'échange verbalement entre les héros, tout en gardant présent à l'esprit qu'ils ne parlent pas exactement de la même façon. Voilà. Au niveau relationnel, je sais que bon, c'est très particulier, mais moi, c'était sur le langage.
Estelle, même question, notamment pour La Voix des Oracles. Si j'ai bonne mémoire, les héros sont un petit peu plus âgés que ceux de Daniel, mais pour le coup, on est loin dans le passé. Oui, comment tu as fait sur cette problématique de langage, justement?
En fait, donc moi, on se retrouve en Gaule au 5e siècle. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas trop la période, c'est la fin de l'Empire romain. C'est quand l'Empire romain d'Occident, au sud de la Gaule, croit encore qu'il peut survivre s'il ferme les yeux très fort. Mais en fait, 10 ans plus tard, les barbares vont entrer dans Rome. Et au nord de la Gaule, c'est déjà le Moyen-Âge, quasiment le proto-Moyen-Âge. Et donc, j'ai un seul personnage adolescent dedans. Oui, parce que je fais du young adulte avec un seul personnage adolescent, je trouve que c'est plus drôle. C'est mon héroïne, Tia, elle a 16 ans. Et disons, je suis partie pour rendre cette période historique accessible vraiment à tous les publics, que ça puisse aussi bien intéresser ben, des gens qui adorent cette période et qui sont à fond dedans. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je ne suis pas sûre. Que des gens qui connaissent absolument rien. J'ai voulu vraiment la traiter comme un monde de fantaisie, en fait. Et quand on entre dans un monde de fantaisie, l'immersion se fait naturellement. Et l'immersion se fait aussi parce qu'on est dans le point de vue des personnages qui vivent leur monde comme si c'était naturel. Donc, pour prendre un exemple en SF que j'ai entendu, je ne sais plus où, quand on est dans un monde de SF avec des douches qui ne sont plus à l'eau mais à ions micronisés, par exemple, le personnage ne dit pas « je vais prendre ma douche à ions micronisés ». Il dit juste « je vais prendre ma douche ». Et puis on s'arrange autour pour faire comprendre de manière subtile que ce n'est pas de l'eau. Et ça ne doit pas gêner la lecture, ça ne doit pas entraver la lecture. C'est vraiment ça que j'ai essayé de faire dans La Voix des Oracles.
La même question pour Eric et pour Hervé, là, pour des séries où les héros sont un peu plus contemporains, hein, ça se passe de nos jours, sur cette problématique de comment parlent les jeunes, comment parlent vos jeunes héros, comment vous avez travaillé la langue.
Bah moi j'ai des ados à la maison, donc je prends des notes, je les espionne vraiment en fait. Et par exemple pour Vagabonde, il y a deux personnages, il y a Billy, on entend pas là, c'est bon ? Il y a Billy qui a 16 ans, ma fille en a 17. Mais je ne suis pas trop inspiré de ma fille, mais il y a Séraphin, son petit frère, qui en a 8. Et là, c'est un copier-coller de mon fils qui avait cet âge-là à l'époque où j'ai écrit le roman, et qui avait un pied dans le monde irréel des Pokémon et des jeux vidéo et de ce que vous, tout ce que vous voudrez, et dans le monde de la réalité. Donc je l'ai totalement plagié. Voilà. Sinon, après, bon, dans une série comme Monstre, où c'est plus long, c'était 7 volumes, etc. Et là, c'est différent, c'est 7 ados qui viennent de mondes totalement différents, s'ils viennent de Harare en Éthiopie, du Québec, de Haïti, d'un milieu assez riche à Oxford, etc. etc. Là, je me suis un peu lancé sans filet. Autant de filles que de garçons quasiment, mais en disant bon allez on y va, ils ont leur caractère chacun, je sais pas du tout où ça va me mener, ça a changé l'histoire au fur et à mesure de toute façon, mais je savais pas un chapitre avant l'autre comment les rapports allaient évoluer, enfin, il y aurait des trahisons, il y aurait de l'amour, après leur façon de parler venait assez naturellement, il suffit d'ouvrir ses oreilles et puis de voir comment ils parlent aujourd'hui, ou on peut aussi rajouter des choses artificielles d'écrivains, projeter des choses, projeter son vécu aussi.
Eric, même question pour toi.
C'est un petit peu le danger, le risque, quand on met en scène des personnages qui ont 12, 13 ans, de trop les asseoir dans une époque, parce qu'ils se démodent extrêmement vite. Le vocabulaire peut très vite se démoder, une expression assez fun, c'est cool, etc., qui peut tomber juste au moment où sort le livre. Quelques années plus tard, elle fait déjà dater, elle fait déjà ringard. Donc moi, je triche un petit peu, je sors des... Mes personnages s'expriment comme je m'exprimais à leur âge. Ça n'est pas le choix dans le choix du vocabulaire que j'essaie de faire passer une actualité, une modernité, mais dans le contexte, dans les rapports. Ils ne s'exclament pas « cool » ou « fun », etc. Ils vont dire « génial !» point exclamation. Comme je pouvais dire « génial » quand j'avais 12 ou 13 ans, mais il n'empêche que ça marche très bien, ça ne dérange pas du tout les lecteurs. Et pour mon personnage de Jasper dans Acom Association, qui est plus âgé, qui a 16 ans, j'ai un peu triché, puisque il s'exprime... Il puise une partie de sa personnalité, c'est un âge où on se cherche aussi, dans le décalage. Donc le fait qu'il ne s'exprime pas exactement comme les jeunes de 16 ans aujourd'hui plaît dans la faveur de sa personnalité.
Même question pour vous, Paolo, sur les ferrailleurs des mers. Là, on est dans le futur, toujours sur cette question du langage et des interactions. On est dans un monde un peu plus violent peut-être que ce qu'on a exprimé, puisqu'ils sont obligés de travailler, vos enfants. Comment vous avez fait ?
Okay, so about language.
Yes.
Okay. All right. So when I was thinking about, and oftentimes when I'm building a world and trying to immerse in it, one of the things that I'm looking at is how people's language will be affected by their lives, how people's language will be affected by the things that are around them, what their slang will be. I'm looking at language specifically as an opportunity to... immerse a reader further in the story. So in this particular story in Shipbreaker, it's all a story about these children in the far future whose job is to tear apart oil tankers and freighters, the last sort of bones of the old accelerated age, our age. And they're basically scrap recyclers, and they have very dangerous jobs stripping out oil and nickel and aluminum and copper wire from these old oil tankers. And they have a language both about the beach that they live on, the work that they do, but also about one another, that they're a crew, that they're a team together, that they... And there's layers of language that they have between one another, both as workers and as amongst one another, and then about their larger world. And that's partly a chance for me to start creating a clearer sense of who these characters are, what their values are, you know, and what's at stake for them.
Vous vous êtes inspiré de langage d'enfants dans les mêmes situations ou pas, ou est-ce que vous avez vraiment travaillé et c'est une création pure?
Well, you know, some of this actually, I originally just had a lot of curse words in there because I curse a lot, and my young adult publisher didn't want all of the fucks and the shits and everything else that I had in it, and it made me pause and go back and look at it really closely in terms of like, wait, what do I want this language to do exactly? And so, you know, if somebody they call somebody a lice biter. Or they call someone, they tell someone to go grind, or they, you know, I started creating a language that was actually far harsher than our easy colloquialisms of curse words, and it was actually sort of fun because the language became more brutal and was better suited to their actual brutal environment than the very generic curse words that I'd had in there originally.
Comment vous faites-vous, auteur jeunesse, pour que vos personnages qui sont plus jeunes que vous soient crédibles? Est-ce que c'est une question que vous vous posez en permanence? Est-ce que vous avez des trucs et astuces? Peut-être tes élèves, quand tu étais prof, est-ce que c'est une référence ou tes enfants, Hervé?
Mes élèves, certes, mais moi aussi. Enfin, comme on disait tout à l'heure, moi j'ai le souvenir de ce que j'étais, de ce que j'aimais. Je pense pas que, malgré toutes les années qui peuvent nous séparer, des adolescents de nos jours soient si différents de ce que j'ai connu. Il faut qu'ils me plaisent, il faut que j'aie envie de les faire vivre, etc. Et pour ça, il faut une certaine identification quand même. Et je les manipule un petit peu comme un marionnettiste peut être en train de jouer avec des marionnettes. Je les fais interagir, réagir, s'aimer, se disputer, etc. C'est un jeu assez passionnant, mais ça, c'est dans n'importe quel type d'écriture. Hein, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que là, on est devant des personnages jeunes et que, oui, c'est vrai que de temps en temps, quand même, je me souviens de ce que j'étais, mais je me souviens aussi beaucoup de tout ce que j'ai vu dans les échanges entre mes élèves.
Même question à...
Je dirais que les personnages soient ados, adultes, méchants, gentils, même des animaux. Le principal, c'est qu'on soit en empathie avec eux. Pour moi, la force des bonnes histoires, c'est pas l'histoire elle-même, c'est les personnages. Alors, j'ai une quarantaine de bouquins. Sur les 40, j'ai 5-6 bouquins où j'ai vraiment eu la chance de travailler avec des personnages vivants. Quand on arrive à une scène de dialogue, on se dit, bon, il va se passer ça. La fin de la scène, ça va être ça. Et puis, il s'avère que le personnage choisit de prendre une autre voie, malgré vous. Et vos doigts galopent, pianotent sur le clavier, mais vous écrivez vraiment ce qu'ils vous disent. Et quand on vit ces moments-là, c'est, pour moi, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. On n'entend pas le téléphone sonner, on est ailleurs, mais en même temps, on est avec eux. Et c'est là où les personnages sont vraiment intéressants. Alors, quand il s'agit de faire vivre des personnages ados, effectivement, moi, je trouve ça tellement difficile parce qu'on garde une part d'adolescence, surtout quand on travaille dans l'imaginaire comme nous. C'est-à-dire qu'on est quand même resté des ados un peu à l'intérieur. Hein. On paye nos impôts, mais bon. Et on se projette, on imagine toujours, on fantasme. Moi, ça... voilà. Donc, c'est assez facile. Il faut juste accepter de se mettre à la place ou à côté du personnage et de l'accompagner.
Estelle, tu voulais dire quelque chose ?
Disons, je pense que ce que je veux dire va rejoindre un peu ce que dit Hervé. C'est-à-dire que déjà, pour moi, quel que soit le personnage, ado ou autre, finalement, c'est un peu la même manière de le faire. Et surtout, je n'ai pas un personnage préconçu dans la tête où je sais quel va être son cheminement du point A au point B jusqu'à la fin du roman. La personne qui m'a appris à écrire vraiment, qui m'a montré ma voix au sens VOX en écriture, c'est un grand monsieur qui est aussi dans ce festival, qui s'appelle Xavier Mauméjean. Et un jour, il m'a dit quelque chose qui a fait sens. J'étais comédienne avant et il m'a dit vraiment... Pense tes personnages comme si tu allais les jouer sur scène, comme si tu allais les incarner en tant que comédienne. Et c'est ce que j'essaye de faire avec tous mes personnages. Je me demande en fait d'où ils viennent, quel est leur parcours. J'essaye de me renseigner beaucoup sur leur culture, sur le monde dans lequel ils vivent, dans leur tête aussi. Et après, en fonction de ça, à chaque scène, j'essaye de trouver la réaction qui est la bonne réaction en fonction de tout ce passé, en fonction de leur caractère, comment aussi chaque épreuve qu'ils traversent va les faire évoluer. Par exemple, mon adolescente a été élevée en recluse par son père, dans une villa au fin fond des forêts d'Aquitaine, et tout ce qu'elle sait du monde, c'est ce que son père lui a appris. Et comment ça, ça lui donne un caractère très particulier. Comment ça va influer sur ses premières interactions avec d'autres gens. Comment les autres gens eux-mêmes vont influer sur elle. Et tout le travail de deuil de certaines choses qu'elle va devoir faire, et puis comment elle, ça va la forger, la rendre plus forte par certains côtés, plus vulnérable par d'autres. Trouver son parcours au fur et à mesure avec elle, pas chercher à lui imposer d'en haut, en fait. Et il y a des moments où... On est tellement dans le personnage qu'en effet, ça se fait tout seul. Et là, moi, j'écris la nuit beaucoup. Et là, je sens plus les heures passer. Et puis tout à coup, je lève la tête et par la fenêtre, c'est l'aube. Et comme tu dis, c'est génial.
Une réaction, Eric et Paolo, c'est le même principe pour vous quand vous êtes immergé dans un roman et quand vous vous posez la question sur la crédibilité de l'histoire, en tout cas la réaction de l'histoire par rapport à ce que vous avez posé au départ.
Alors moi, j'essaye de ne pas me poser de questions. D'écrire instinctivement, je compare un petit peu l'écriture à la conduite d'une voiture. Si on se met à réfléchir, ah, là maintenant il faut que j'embraye, je passe une vitesse, je débraye, etc. On ne regarde plus la route et on va dans le fossé. Au bout d'un moment, on n'a que l'objectif, que l'endroit où on veut aller, on ne sait plus comment la voiture fonctionne. Non seulement ça, mais en plus, on va vers quelque part et notre esprit pense en même temps à d'autres choses. Enfin, c'est assez complexe, mais on a déjà oublié tout le côté technique. Moi, c'est ce que j'essaye d'atteindre, ce que j'essaye de faire, éviter de trop me poser de questions, sinon après, ça ne fonctionne plus.
Paolo ?
I think when I'm thinking about constructing a story, there's a period where I try to live inside of the very early stages. I'm trying to live inside of the characters, and it's a process in the first third of the book where I keep spinning and keep trying different things. I'm thinking like when I wrote The Drowned Cities, there's a character that I knew I wanted to write named Malia, and she's a victim of soldier boys, and so she's been attacked by soldier boys before. This is in a future where there's a civil war that's been going on for a very long time, and there have been sort of ethnic purges that have happened, and she's been caught by these sort of militias once, and they chopped off one of her hands. And so I know that she exists as a person. I know that I've constructed her in a way that I'm thinking about the stakes for her are very high in terms of avoiding these militias in the future. She doesn't want to run into them again. But then how am I going to introduce her as a character? How am I going to introduce this world to people? And there is a technical aspect to this of how do I help you, the reader, understand the stakes for her, how this world works, who all these militias are? Will that be because she'll see... the militia propaganda on the walls of her village? Will that be because she sees a soldier boy in town? Will that be because, and I'll start this story many different ways. One time, you know, we'll see her from the perspective of what she's doing in the village where she's helping a doctor with a patient. And that's one possibility. But there's another possibility, which is, oh, maybe she's going to be out in the jungles outside of her village, and she'll see a militia, the soldier boys, coming, and she's hiding from them. And so you can watch the soldier boys go by, and you can see the bones that they've collected of other victims, and you get to see that. And each time I'm spinning through and trying to find just the right way to enter in, both so that like the world feels big enough, but I finally believe in it enough. There's some thrust of story. And after that, then I can start to find my way through the rest of it. But it's she has to be built first, and her world has to feel real. And that might be make several different attempts before I finally get her well enough that she does feel real, that I'm not feeling like I'm lying to myself anymore.
Vous parlez d'une jeune fille qui s'est fait couper la main. D'en faire ailleurs des mères, c'est assez dur. Est-ce que c'est... Tu parlais, Estelle, de ton héroïne qui est recluse. Hervé, dans Monstre, ton personnage principal a 7 cm de moins sur une jambe, donc il souffre particulièrement. Est-ce que c'est difficile en tant qu'auteur et auteur jeunesse de faire du mal à ces personnages, de faire du mal à des personnages d'ados ou d'enfants? Qui veut répondre? Peut-être Paolo et puis les autres après.
How do I feel about hurting children? I love to hurt children. I think, you know, each story has its own sort of truths. And one of the things, so when I was writing Shipbreaker, this is a story about kids who are working recycling operations. And there are real world examples of this. We can look in Chittagong, Bangladesh, or we can look at the Along shipbreaking yards in Gujarat. And there are strong examples of the kinds of lives that people lead when they are dealing with recycling old ships, and there are no laws and there are no regulations and there are no protections for children. And so there's some truth there right away. There are some truths about the lives of children who are abused and have abusive families. And I think that at least one of my jobs, and in the case of Malia with her missing hand, it's not, you don't have to go very far into the news to find what a civil war looks like for a country and how quickly children get pressed into civil wars and how quickly they're victimized by civil wars. You know, those details are just our regular life. I'm not spinning out some made-up story. I just have to go out and find a couple details. In honesty, in many cases, I'm actually making the kids' lives in my stories far nicer than the material that I've used for research. I'm actually being very kind and sweet because we don't really, we at least with my stories, there's some meaning to why something has happened to this character, and there's some arc where she might have a chance of getting out, when in reality, mostly the violence in the world is meaningless and brutal. And so, yeah, I sometimes actually feel like I'm almost too nice because maybe I'm creating a lie.
Oui, et même sans aller très loin dans des, ou même sans aller dans des pays où il y a des guerres effectives, où il y a vraiment du travail d'enfants, ce qui arrive aussi d'ailleurs de plus en plus en Europe, donc youhou. Même ici en France, les ados que je croise aujourd'hui, aussi bien dans mon entourage que donc dans ma banlieue, que dans les festivals, vivent dans un monde qui est de toute manière très dur, et ils vivent des choses qui sont parfois déjà assez dures. Ils vivent dans un monde où ils ont beaucoup moins d'espoir, par exemple, que ne serait-ce que les ados de ma génération. Enfin, quand j'avais 15 ans, on était encore dans un monde qui était assez ouvert, on croyait encore qu'on allait pouvoir avoir un travail, une maison, qu'on allait pouvoir voyager. Maintenant, je croise des ados qui, pour qui déjà avoir un travail, ça leur paraît être une quête du Graal. Avoir une maison, ils y pensent même pas. Donc, ils vivent dans un monde qui est difficile de toute manière. Et le peindre en rose avec des petites licornes, c'est pas leur rendre service et c'est pas ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est justement, de ce que je croise en tout cas, c'est des personnages d'ados qui vivent des situations difficiles, parfois même plus difficiles que les leurs, et qui quand même arrivent à trouver leur chemin, qui quand même arrivent à avancer. Pas forcément à s'en sortir de manière miraculeuse non plus, parce qu'ils savent que le monde, c'est pas un téléfilm feel-good du dimanche après-midi. Donc, face à ce monde dur, si on leur envoie des histoires super roses et super gentilles, en fait, ça les fait flipper plus qu'autre chose. Alors que leur dire au contraire, ok, ça va être dur, ok, on va morfler, mais à la fin, on va quand même avancer, on va peut-être vivre des choses intéressantes entre-temps. Là, par contre, c'est un vrai message d'espoir.
Est-ce que les autres sont d'accord, Hervé ?
Oui, complètement d'accord. Mais je me dirais même, pour le boulot d'écrivain sur l'histoire, c'est plus intéressant de travailler avec des personnages anormaux, asociaux, à contraintes, que des personnages lisses et parfaits. Dans Monstre, bon, y en a une qui a Asperger, l'autre qui a vu qu'entend sa petite sœur qui est morte dans sa tête, Milo a une jambe plus courte que l'autre, etc. C'est tous des monstres. Après, effectivement, c'est comment on les voit évoluer, comment ils vont essayer de s'en sortir dans ce monde si difficile, et voilà, etc.
Si je peux me permettre un dernier truc aussi, dans ma série, au fil des tomes, c'est les lectrices qui m'ont demandé de faire souffrir certains personnages, parce que, je cite, lui, il est tellement plus beau quand il souffre. Donc on n'est pas les seuls responsables.
Paolo ?
There was one other thought that I had, which I thought was sort of interesting. When I wrote Shipbreaker, mostly I was trying to write an adventure story. I just thought of myself as trying to tell a cool story that would be engaging for a kid and that would make them want to turn the page. But some of the main character Naylor's life is difficult. Some of it's bad. But one of the things that was really striking to me was that as people started to read the story, kids would read it and they would enjoy it. They would be like, oh, this is great. This is really fun. Oh, that's really exciting. Oh, I really like Tool, this other monster character in the story. Oh, you know, and for them, they read it as adventure. The teenagers read it as adventure. When I gave it to my father, there was a particular moment that he got to in the story where there's this really abusive dad who comes onto the scene, and he's showed up a couple of times already, and he's scary. Every time he shows up, he's drunk and he's mean and he's dangerous. And there's a moment about halfway into the book where Naylor runs into his father again, and his father and it ends on a chapter where Naylor sees his father coming across the beaches towards him with a whole crew of his father's, you know, sort of vicious friends. And my father's comment about it was, I didn't want to read after that. My father was horrified that this character, Richard, was coming, because my father could project out, and he had enough background and experience of the horrors of the world to put all sorts of expectations on that arrival of that abusive person. Whereas the kids were like, uh-oh, bad guy's coming. Okay, let's see what happens next. But my father was like, that was where I wanted to stop, was just anticipating what might happen next. And that was interesting to me, how adults read a story with the experiences that we have versus the way a child reads a story with the experiences that they have, and where we're sensitive and where we aren't because of that.
Est-ce que ça veut dire que parfois vous pouvez presque vous permettre plus de choses en se disant que les enfants sont plus souples ou prêts à accueillir plus de situations un petit peu délicates? Eric?
En fait, je pense que le lecteur est prêt à peu près tout accepter à partir du moment où l'auteur joue le jeu et qu'à l'issue des épreuves auxquelles il confronte ses personnages, ils arrivent à quelque chose, ils gagnent quelque chose. De la liberté, un pouvoir, retrouver quelqu'un, etc. Si on fait souffrir inutilement ces personnages, le but n'est pas atteint.
Ça veut dire que même en mettant des univers un peu sombres de temps en temps en place, comme des univers dystopiques, il faut absolument qu'il y ait un souffle d'espoir ou un motif d'avancer. Daniel, par exemple.
À partir du moment où moi je les confronte principalement à un environnement, c'est le monde autour d'eux qui est vraiment violent. Je suis incapable de faire des personnages extrêmement méchants, moi. Alors, pour moi, c'est le monde écologique, enfin, avec les déchets, avec le manque d'eau, avec des médias absolument super puissants. La violence vient de tout ça autour d'eux. Je ne termine jamais mes romans en donnant l'impression à mon lecteur que tout va changer d'un seul coup. C'est toujours une étape. Il y a eu un progrès, le héros a une réalisation personnelle souvent très positive dans le domaine affectif chez mes personnages, mais j'ai semé des petites graines qui laissent supposer à mon lecteur que les choses vont évoluer, vont changer, mais lentement. Je ne vois pas comment on pourrait illusionner des jeunes en leur donnant l'impression qu'on peut changer le monde en deux coups de cuillère à peau. C'est lent, ça va se passer grâce peut-être à l'action d'autres jeunes autour d'eux, etc. Je pense que personne n'a maintenant l'idée d'écrire un roman jeunesse où ça y est, comme disait Estelle tout à l'heure, on n'est pas dans le monde des petits poneys. Hein, on est obligé de rester franc. D'une certaine façon, c'est une franchise de l'auteur, une honnêteté de l'auteur à l'égard des jeunes lecteurs.
Paolo, vous voulez réagir parce que je pense à Ferrailleurs des Mers, qui est un univers plutôt sombre. Et effectivement, est-ce que faut-il qu'il y ait un motif d'espoir pour le faire avancer, ce roman?
Okay. So for me, the place that I'm looking for hope in my stories for young people specifically, and this changes whether I'm writing for children or teenagers or adults, and that my focus and energy changes for that. But for me, when I'm writing for teenagers, I want to have a very, very broken world because I feel like we're handing off a very, very broken world. When I look at certain trend lines, I don't like where they're going. I feel like we as adults are not handing off the best possible world to our children. So almost invariably, these stories for young people involve children growing up in a world that we've handed off to them. We hand them the sort of the rubble and the shattered glass of the beautiful vases that we lived inside of and enjoyed, and they live in the rubble. And so that can't be fixed. In none of my stories do the kids get to fix the broken world exactly. They're stuck living in it. The place, though, where I do give my characters hope is that, and unlike some of my adult stories, they have a path towards something better. Within the rules of this broken world, they have a path out. For Naylor, as he's growing up on the shipbreaking yards, he might be tearing apart ocean freighters and having to strip copper wire, but out on the water, he can see these beautiful sailing ships. He can see these beautiful high-technology clipper ships, and they've got high-altitude parasails, and they've got hydrofoils, and they're very fast, and they're very sleek, and there's this sense that if he can just get out to that sort of cleaner, better world out there, that something can be improved for his life. And that's largely what that story is about for me, is this process of getting out of the rubble of this world and our mistakes and out to something better and more sustainable, these beautiful sailing ships.
Estelle?
Quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir, c'est vraiment quand on parle de l'énergie. Pour moi, l'une des grandes différences entre ma série Young Adult et mes romans adultes, c'est vraiment dans la littérature jeunesse, on peut traiter de plein de sujets, mais avec une énergie qui soit quand même une énergie d'action, une énergie d'aventure, une énergie qui porte le lecteur. Et alors ça a peut-être l'air un peu mystique comme ça, mais c'est vraiment cette énergie-là qui est caractéristique des romans jeunesse et qui permet que finalement tout va aussi pouvoir être lu comme un roman d'aventure, en tout cas par un jeune lecteur, là où un lecteur adulte verra plus derrière, comme on aura une interprétation différente, comme en parlait Paolo Bassigalupi tout à l'heure. Un lecteur jeunesse pourra toujours, s'il le veut, le lire comme un roman d'aventure, avec cette énergie de roman d'aventure. Là où, dans mes romans adultes, les énergies vont beaucoup plus varier, vont être vraiment différentes, où je vais vraiment aller dans des vrais moments de malaise par moment, que je ne mettrai pas dans un roman jeunesse, pour des sujets qui sont aussi durs dans les uns ou dans les autres. C'est beaucoup plus la manière de traiter le sujet que le sujet lui-même.
Est-ce que du coup là on parle d'avancée, on parle d'énergie, faut-il que les romans jeunesse, même quand les univers sont très sombres, presque dystopiques, aient un message ou en tout cas essayent de transmettre des choses aux jeunes? Et est-ce que c'est une volonté quand vous en mettez?
Alors moi si j'ai un message à mettre dans mes bouquins, c'est très pragmatique, c'est par exemple mettez des préservatifs, voilà, parce que mes ados font l'amour, etc., et ça s'arrête là.
Daniel, quand tu mets en place par exemple Sens Interdit, univers dystopique, univers très dur, est-ce que pareil il y a une volonté dans une noirceur ou une situation un petit peu bloquée de transmettre ou de mettre ce qu'on appelle une littérature à message? Est-ce qu'il y a une responsabilité particulière de l'auteur, de l'auteur pour jeunesse?
Sans doute, mais moi je peux pas écrire un bouquin en me disant que je vais mettre, enfin j'ai pas l'idée d'un message à transmettre dans le livre. Sinon, ça serait trop didactique, pédagogique. À ce moment-là, je fais un cours. C'est le prof qui prend la place, là. Mais non, c'est... Avant toute chose, c'est distraire. Par l'intermédiaire de la distraction, peut passer le message d'une réflexion. Et c'est là que nos jeunes lecteurs sont tous différemment réceptifs au livre. Et moi, ce qui m'étonne énormément, souvent, c'est la différence d'âge qu'il peut y avoir entre les lecteurs pour un même livre jeunesse. Et c'est très intéressant de voir ce que chacun y trouve, ce que chacun en retire, et comme chacun peut, d'une certaine façon, se construire une toute petite part de lui-même, peut-être, mais chacun peut se construire avec une lecture. Et ça, c'est formidable. Mais si on commence à vouloir dire, ah, tiens, je vais faire tel message, je vais faire ça, etc., enfin, ça marche pas comme ça. Enfin, pour moi, le travail d'écriture, c'est pas ça. C'est pas.
Eric.
Oui, je suis tout à fait d'accord. La responsabilité, peut-être justement, de l'auteur vis-à-vis de son public, c'est de ne pas faire passer de message, mais de raconter, de l'emmener ailleurs, de le faire voyager, de raconter des histoires. Et si message il y a, il passe de toute manière à partir du moment où on met dans les livres beaucoup de nous-mêmes et que nous-mêmes, eh ben, on croit à des choses Et ces choses-là, elles passent, et les lecteurs les sentent, sont des choses simples. Alors moi, je ne mets pas de préservatif dans mes romans, mais il est beaucoup question d'amitié, de loyauté, de courage, des choses extrêmement simples que les lecteurs retrouvent. Pas d'autres messages à passer que face à certaines situations, le courage vaut mieux que la lâcheté, l'entraide vaut mieux que l'égoïsme, etc.
Estelle ?
Bon, ben voilà, je vais me retrouver à ne pas être d'accord avec les autres. Donc, désolée. De votre côté, voilà, ça met un petit peu de débat, c'est bien. Disons, au départ, quand j'étais jeune et que je n'étais pas du tout auteur, je pensais vraiment comme vous, c'est avant tout, on raconte une bonne histoire. La bonne histoire, elle va porter son message d'elle-même et tout. Et puis, depuis que je suis auteur et que je vois le jeune public autour de moi et le public même moins jeune, je vois dans notre monde, qui quand même ne va pas hyper bien, notamment en France, notamment en Europe, l'impact des histoires sur ce monde. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les histoires qu'on raconte ont un impact. Bon, à mon petit niveau, elles n'ont pas un énorme impact, je ne vais pas me leurrer là-dessus. Mais par contre, dès qu'une histoire prend un peu d'ampleur, un peu d'importance, elle commence à avoir un énorme impact sur le monde. Et par exemple, on a des histoires qui, incidemment, changent notre monde, tordent notre monde dans des directions qui, quand même, me font pas hyper plaisir et qui, je trouve, sont assez malsaines pour le coup. Par exemple, on a de plus en plus d'histoires qui, mine de rien, nous font suivre des enfants élus. Des enfants de familles nobles, des nobles tout court d'ailleurs. Et on revient à un monde qui se féodalise dans les têtes de manière incroyable. Enfin, à côté, donc, moi je fais de l'aide à la lecture et à l'expression dans mon coin de banlieue, où il y a des endroits vraiment assez durs. Et c'est des endroits où les mômes ne vont même plus rêver à autre chose qu'à être dans la même banlieue, dans la même, dans le même coin de HLM et le même coin de terrain de sport qui se réduit d'année en année. Parce que ils ne croient même plus qu'ils peuvent rêver à autre chose. C'est même plus dans leur tête. Pourquoi ? Parce que les histoires qu'on leur raconte, c'est en gros, la fille de la princesse, ça va être princesse à son tour. Mais toi, t'es pas la fille de la princesse, alors qu'est-ce que tu vas être ? Et les histoires ont un impact sur le monde. Donc maintenant, oui, au moins j'essaye de faire attention à ce que je raconte parce que c'est pas innocent. Et se dire, non, mais de toute manière, c'est une bonne histoire, avant tout une bonne histoire, ça me paraît être une solution de facilité. Voilà, désolée hein, pour le côté sérieux.
Non, donc ça veut dire que toi, tu te sens une responsabilité et tu as envie de partager des valeurs, mais quelque part, ça rejoint un petit peu ce que dit Eric.
C'est, disons, en tout cas, je ne veux pas écrire en toute innocence, parce qu'on ne peut pas écrire en étant innocent. Par exemple, je me suis aussi beaucoup posé au fil des festivals des questions sur les personnages féminins dans mes romans que je ne me posais pas avant. Et je me suis rendu compte que mes personnages féminins, jusqu'à maintenant, ils avaient le défaut qu'ont finalement beaucoup de personnages féminins. C'est-à-dire, il y en avait, c'était des filles fortes, courageuses, qui certes avaient des fêlures, mais des fêlures quelque part socialement acceptables. Et par exemple, dans les romans, je me suis rendu compte que, mais parce que c'est pas moi, je veux dire, c'est surtout tous les gens avec qui j'ai pu parler, tous les gens avec qui j'ai pu interagir en festival, c'est pour ça que c'est précieux les endroits comme ici, où on peut interagir vraiment à plein de gens, que les défauts, il y a des défauts qui sont super cool chez les mecs, et que les femmes n'ont pas le droit d'avoir. Et après, ça type les comportements des ados dans les cours d'école, dans les cours de collège, dans les cours de lycée. Où, par exemple, les mecs vont prendre de la place, ils vont courir partout, ils vont vraiment occuper l'espace. Parce que ça, c'est un mec qui est un peu expansif dans un roman, c'est bien. Un mec qui est un peu maladroit et qui casse des trucs dans un roman, ouais, mais quelque part, il est badass. Une fille qui casse des trucs dans un roman, c'est la godiche qui est maladroite. Donc la fille, elle va surtout pas bouger, surtout essayer de rien casser. Et les défauts qu'elle pourra avoir, c'est par exemple être trop courageuse. Mais elle ne pourra pas avoir être trop autoritaire, parce qu'une fille trop autoritaire, ce n'est pas séduisant. Là où un mec, ouais, trop autoritaire, ok, il est un petit peu dark, il est un petit peu sombre, il est un peu ténébreux, tu vois, mais il sait tellement ce qu'il veut, quelque part, c'est séduisant. Et déjà, quand on time nos personnages, même des personnages positifs, on a une influence. Ne serait-ce que toute petite dans mon cas, mais qui pour d'autres histoires peut être immense. Et cette influence-là, je veux y penser maintenant parce qu'encore une fois, écrire dans une prétendue innocence, a fortiori dans le monde dans lequel on vit, ça me semble juste pas être valable.
Les garçons, c'est les choses que vous vous posez quand vous écrivez des romans, justement, cette place du sexisme, Hervé et Paolo.
Moi, j'aime beaucoup les personnages ados féminins. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, sur l'innocence, on n'écrit pas innocemment et il faut être responsable par rapport à ça. Et j'aime beaucoup les personnages féminins parce que, effectivement, j'en ai un que j'aime beaucoup, Blanche, qui vit à Paris à la fin du 19e siècle, parce que c'est une contrainte formidable, en plus dans un milieu bourgeois, de la prendre, de lui donner l'envie d'enquêter. Elle n'a absolument pas le droit, parce qu'elle est fille de bourgeoise, parce qu'elle a 16 ans, parce qu'elle est, etc. Il est impossible pour elle d'accomplir ce rêve-là. Mais elle va tout faire pour y arriver. Et en fait, mon moteur, c'est ça. C'est, je crée mes persos. Sur mon credo, c'est faites ce que. Enfin, vous avez un rêve à réaliser, essayez de le faire. C'était mon credo pour devenir écrivain. Je voulais devenir écrivain, mais j'étais fou, arrête. Fais ça quand tu auras 40 ans, mais d'abord blinde ta situation financière. Non, j'ai un rêve à réaliser, j'y vais, quoi. Après, je peux me casser la gueule, mais c'est pas grave. Et mes personnages, c'est pareil. Je leur dis vous avez un rêve à réaliser, une enquête à résoudre, quelqu'un à poursuivre, allez-y, quoi. Mais par contre, je vais vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà.
Paolo?
I guess I'm hearing a couple of different kinds of questions about values and politics and messages in story. And so some of those are explicit messages, like we're breaking the world. Maybe we don't want to do that. Maybe we should go in another direction. And some of those are more hidden messages, the ones of, you know, what do we consider socially acceptable for a girl or a boy to be or to do, or how do we represent people of different races, of different cultures, and what are the patterns that we have that when we do those things? And I think that these are all hugely complex things. And so I think, you know, first of all, I guess when I think about all of writing and writing for young people or writing for adults, I do feel like there's sort of my absolute line is that every writer should do whatever the hell they want. Just because it's so fucking hard to write, and so they should just do whatever they want. For me, there's a couple of things that also end up informing my writing, and one of those is that in order for me to feel okay about doing this thing that feels a little bit self-indulgent, to be creating stories and telling stories, I kind of have to feel like that story is meaningful and valuable. And that's different. It'll change for every book what's meaningful and valuable. Originally, when I was writing Shipbreaker, what I thought I was writing about that was meaningful and valuable really did have to do with sustainability. It had to do with trying to make things like wind power look cool. I wanted to make a sustainable technology look cool, so that was why I wanted to have high-technology sailing ships. There was a piece of my values that's showing up right there in the story, trying to make a technology look exciting so that people would be interested in it, so they might want to build it someday, so we could have a wind-powered economy instead of an oil-powered economy. Those are things that I kind of hope for. As I'm writing the story, though, there were some other things that showed up, and some of those other values that came in were there's this dynamic between Naylor and his father. His father is abusive, and this kid has to deal with his abusive father. And one of the values that I hear again and again expressed by many people is that family is important, that family is this centerpiece of our lives. And it's not true. Sometimes your family is a horrible, toxic thing that you have to rip out. And it really struck me that you know, for me, one of the things that was most important was not that Naylor was turned out not to be about the environment, turned not to be about sustainability, turned not to be about any of those things, but it was about the nature of family and where we have our family. And the value to me in that story came about in trying to demonstrate, and I really did want to write explicitly about this, where is Naylor's family? Where does this kid go for safety? Where does this kid go for support? How does he construct a family that's supportive while he has this other part, his blood family, and that's not, even though we have all sorts of messages in our society, that his blood family is not where his safety lies and that he needs to get as far away from that as possible. So that became the story, the values message, you know. But beyond that, then there's this other layer, which is how do we represent people and what layers of representation exist in a story. And one of the things that was fascinating to me about writing Shipbreaker is when I was writing this story, part of the story is that Naylor's stuck on this beach and eventually there's a shipwreck. And there's this beautiful girl, very rich girl, who shipwrecks on the beach. Now, this girl, she occupies a classic space in our storytelling. This is the beautiful princess. You know, she's right there. And I know that. I like the beautiful princess trope. I like that storyline in some ways. But also with it comes a lot of baggage. Is she somebody to be rescued? Does she have any agency of her own? Does she have any interior value other than to be rich and beautiful? Does she, you know, what is she and how does she get represented? And when girls read this story, because I'm hoping that boys and girls are going to read this story, what are they going to think of this character and what will they model themselves after and what will they, and what messaging will they take? And I think that is worth thinking about. The frameworks that we create in stories are sort of ideals that we tend to live into in some way or another. We do model after our storytelling, and I think that's interesting. But the final thing that was fascinating to me about writing that story was that I explicitly wanted the girl in the story, the beautiful princess, to be Indian. And she's actually modeled on my wife. And I married an Indian woman and from India. And I wanted this girl to be Indian. I wanted her to be... I wanted my wife in the story, sort of. And one of the weird things about that, though, was that every time, for a very long time as I was writing the story, I could not stop imagining the girl as being blonde-haired and blue-eyed. I couldn't stop. I every time I thought of her, she had blonde hair. And I'm like, wait, no, she's Indian. She's my wife. That's, and I was like, no, she's blonde and blue-eyed. And it kept coming into my head that she was blonde. And that's very strange when you suddenly realize you have no control. It's the trope. It's the image of the princess. The overarching trope of the princess is a blonde girl. And it's stuck so deep in, I don't know how many Disney movies I watched. But somewhere along the way, that got drilled into my head so deeply that I don't even notice it anymore until this moment when I'm writing on the page and trying to create a new kind of princess character, and I realize I'm fighting against all of the other images that came before. And I think that connects a little bit to what you're talking about how when our stories get so deeply ingrained in our heads that it suddenly becomes very difficult for us to see other kinds of stories or represent in original ways or be actually authentic. And so now I'm thinking about all those layers. It makes writing very complicated, but I think it's worth thinking about. Sorry to go on so long.
Estelle, oui, vas-y.
Oui, enfin, ce que vous dites, ça, forcément, ça me touche et ça résonne. Et ce qui est génial quand on se pose des questions sur justement les tropes et les clichés inconscients même qu'on a dans la tête, quand on commence à les questionner, tout à coup, on voit apparaître plein de nouveaux personnages possibles. Et plein de nouveaux personnages, voilà, qui ont tellement de possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Donc vraiment, se poser des questions aussi et interroger les représentations classiques, ça permet d'enrichir notre imagination et ça permet d'ouvrir des portes dans la tête. Et ça, c'est, on acquiert vraiment de la liberté avec ça, et on acquiert de la liberté en tant qu'auteur. Après, c'est aussi parfois, ouais, pas mal de boulot, mais justement, c'est du boulot intéressant.
Eric ?
Alors moi, je persiste et signe. Je revendique le droit à une innocence de l'écriture. Moi, je raconte mes histoires sans me poser tout plein de questions, à l'instinct, comme je pilote une voiture, comme je disais tout à l'heure. Et il en sort une histoire. Et si mes lecteurs se retrouvent dans mon histoire, eh ben tant mieux. S'ils ne s'y retrouvent pas, eh bien tant pis. Peut-être qu'ils se positionneront contre, en opposition, en décalage par rapport à mon histoire, mais ce sont ces histoires que j'essaye de raconter. Ce sont des histoires qui me viennent de profond, et je n'essaye pas de décortiquer un processus ou de les bâtir, de les sortir de moi avant de les réintégrer pour les bâtir. Je les écris, et puis voilà, elles vivent leur vie après, toutes seules.
Daniel ?
On n'a pas prononcé une seule fois le mot amour dans tout ce qu'on a dit là. Ce sont des romans pour adolescents. Il y a une préoccupation essentielle chez les adolescents, c'est le sentiment amoureux. Et moi, mes romans sont en même temps des histoires d'amour. Mais c'est aussi une relation au personnage qui est très affective entre moi et eux. Je suis une arracheuse de pages des revues dans les salles d'attente parce que je reconnais mes personnages quand je les vois en photo sur certaines revues ou des catalogues ou des choses comme ça. Je suis absolument incapable d'imaginer les visages de mes personnages. je sais parfaitement si ce sont des jeunes d'origine maghrébine, ou j'ai choisi aussi des personnages africains, j'ai des personnages asiatiques, etc. Mais le visage, les traits précis du visage, je suis incapable de les imaginer. Et parfois, ça m'arrive de tomber sur, comme ça, un adolescent, quelqu'un qui pose dans un catalogue ou dans des photos, etc. Et je me dis, ah, voilà, ça, c'est lui, ou ça, c'est elle. C'est un peu comme le coup de foudre, en fait. Hein. Je déchire la page, je rapporte ça, bien plié. Je me suis fait vraiment, quelquefois, regarder par des gens qui disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrache les pages. Je revendique, je reconnais mes personnages, quand je les vois, je dis, tiens, voilà, lui, c'est un tel, et elle, c'est un tel, etc. Et ces coups de foudre-là, je les mets en scène aussi entre eux. C'est-à-dire que je pense que cette évolution vers l'affectif de l'âge de l'adolescence, ça doit absolument se retrouver dans les romans jeunesse. Et je me souviens très bien du premier éditeur auquel j'avais soumis mon premier manuscrit, qui m'avait cuisiné littéralement pendant au moins une demi-heure pour me demander des tas de choses. Et au bout d'un moment, il m'a dit « Mais bon, d'accord, c'est un roman de science-fiction, mais c'est aussi une bluette sentimentale. La bourguignonne que je suis s'est sentie la moutarde monter au nez d'un seul coup. » Et j'ai dit « Mais je l'ai fait exprès. » J'ai dit, j'ai écrit un roman de science-fiction qui est en même temps un roman d'amour. Alors, il m'a dit, voilà ce que j'attendais. Alors, j'ai dit, vous attendiez que je me fâche? Alors, il m'a dit, oui, parce que je veux que les auteurs sentent leur texte au point d'être capables de le défendre, parce que le public jeune est un public très intransigeant. Et donc, oui, je revendique aussi le fait que mes romans sont des histoires d'amour. C'est une constante, il n'y a jamais un de mes romans sans qu'il y ait une histoire affective et sentimentale. Et c'est ça aussi qui fait que ça sert de moteur, en fait, pour les personnages, pour avancer aussi eux-mêmes dans leur propre vie et d'aller jusqu'à cette résolution, quelque part, de l'intrigue qu'on leur impose, nous, en tant qu'auteurs, par l'affectif.
Bah, au moins, on a ouvert des portes pendant cette conférence. Hein. On n'a pas forcément répondu à la question, mais en tout cas, on a ouvert pas mal de portes. Est-ce que quelqu'un a une question? On a le temps pour une petite question à un de nos invités. Oui, là-bas, monsieur.
Oui, quel reflet des grandes mythologies, des grands thèmes, la littérature jeunesse offre-t-elle? Même involontairement, ce qui a été plus ou moins abordé.
Estelle, peut-être? Tu as 1 minute 30 pour répondre.
Alors, donc je vais essayer de répondre rapidement et puis en étant clair, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on pourrait répondre dans deux questions en une. D'abord, personnellement, j'aime beaucoup les mythologies, notamment donc tout ce qui est mythologie donc romaine, grecque, étrusque aussi. Et je m'en sers beaucoup, bah, notamment donc, dans ma série Young Adult, parce qu'elles ont vraiment quelque chose à nous dire. Et par ailleurs, disons, la littérature en général, et notamment la littérature jeunesse, se nourrit aussi de grands schémas classiques, mais parce que ces schémas classiques disent quelque chose sur l'humanité. Et en même temps, la manière dont on va les réinterpréter et dont on va les tordre, par exemple, aussi pour... voilà, les interpréter selon notre époque actuelle dit quelque chose à la fois sur notre époque tout en ayant la résonance classique et la résonance au fil des âges. Il y avait une collection super intéressante là-dessus chez Rajo, mais qui a fermé, et qui était une collection d'histoires d'amour, donc pour revenir sur ce que disait Daniel. Donc là, j'ai pas écrit dedans. L'histoire d'amour n'est pas ma spécialité, par contre. Bon, j'en mets un peu, mais c'est pas l'essentiel de mes univers. Et cette collection chez Rajo, elle reprenait des grandes histoires d'amour en les réinterprétant dans le contexte actuel, et les grandes histoires d'amour de la culture, en fait. Donc il y avait une réinterprétation de Bérénice, une réinterprétation donc des Hauts de Hurlevent, une réinterprétation de, enfin voilà, qui était remise dans un contexte actuel avec des jeux sur les mises en habits, mais en même temps avec vraiment des ados, très ados de nos jours. Et c'était un projet très intéressant. C'était Fabien Clavel, qui est un super bon auteur jeunesse, qui avait vraiment poussé ça, et si vous mettez la main dessus, ça vaut le coup d'œil.
Voilà, on arrive au bout de cette table ronde. Merci à nos intervenants. Merci à vous. Vous pouvez tout de suite les retrouver en dédicace. Bonne soirée.